Et vous retrouverez dans ce journal vos rendez-vous habituels du lundi, notamment la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Radio Rythme Bleu relance son opération au cœur de Noël et nous comptons sur votre générosité. Nous en parlerons dans ce journal. Débrayage de Lussouinq aujourd'hui à Enercal. Les agents veulent alerter la clientèle sur l'insécurité grandissante lors des interventions sur certaines zones du territoire. Quel est le meilleur miel de Nouvelle-Calédonie? Un jury en a goûté 29 ce matin. Résultat, ce sera lors du Royal Calédonian Show le week-end prochain. Et puis en métropole, semaine décisive pour Michel Barnier. Si le Premier ministre utilise le 49.3 la nuit prochaine, il pourrait être victime d'une motion de censure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On se retrouvera pour les Macs des sports à la fin de cette édition. Michael Juneski, bonjour.
Bonjour Jean-François.
On y parlera notamment football avec le résultat du dernier match de la journée de Ligue 1 et Marseille qui évite le faux pas contre Monaco.
Oui, l'OM, un dauphin comme un poisson dans l'eau qui a surmonté l'obstacle monégasque dans le choc des deux clubs sur le podium derrière le PSG. Les Marseillais ont vaincu leur démon et Monaco pour revenir en deuxième position dans le classement en s'imposant 2-1 au bout du suspense. Désormais, il va falloir tenir la cadence pour garder cette place à 7 points maintenant du leader parisien.
Tous les résultats sportifs du week-end sur la scène nationale et internationale dans la première partie du magazine des sports. Et ensuite, nous parlerons du sport en Calédonie et notamment les trophées du sport CTOS.
Oui, encore une belle année pour Pierre Ferbanque qui, à 53 ans, était parmi les meilleurs de la planète en course fauteuil, des finales aux Jeux de Paris, des titres mondiaux. Pierre Ferbanque, désigné athlète de l'année 2024. Si le mouvement sportif a subi très durement les émeutes de 2024, le CTOS tenait tout de même à distinguer ces athlètes qui, à travers leur performance, ont donné envie à la Calédonie de continuer à espérer et à se rassembler.
Et puis nous parlerons d'une discipline coup de projecteur sur le triathlon.
Oui, et malgré l'interruption des compétitions pendant plusieurs mois, la discipline termine l'année en beauté. Plusieurs rendez-vous qui ont gagné en popularité. La Ligue mise beaucoup sur 2025 pour une pratique, un sport complet qui intéresse de plus en plus d'amateurs. Nous en parlerons avec Éric Savignac, le nouveau président de la Ligue calédonienne de triathlon.
Le magazine des sports à retrouver donc dès la fin de cette édition. Édition que nous poursuivons avec le rendez-vous du lundi, c'est bien sûr la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Tel le dieu Janus, l'Union calédonienne a deux visages. Celui amène et apaisé de son nouveau président, qui affirme ne pas être le chef de l'insurrection, mais celui d'un mouvement politique. Et puis celui tourmenté, violent et destructeur de la CCAT, qui est encore très présente dans le bureau politique de l'UC. À leur partage de rôle ou véritable dissension au sein du parti, l'avenir le dira, et les actes et prises de position aussi. À ce titre, la motion de politique générale adoptée par le 55e congrès n'est pas très encourageante. Mais les déclarations d'Emmanuel Tchibaou vont plutôt à l'inverse, dans le sens de l'apaisement, au point que l'on se demande comment la cohabitation est possible. Le nouveau président a d'ailleurs conscience de cet état de fait, puisqu'il parle d'un mouvement tiraillé en interne par des dissensions, des tensions et des positionnements pris par les uns mais non défendus par les autres. On se retrouve à faire le grand écart, dit-il, et ce n'est pas possible pour nous. C'est la raison pour laquelle beaucoup attendaient un congrès de la clarification. Mais on en est encore loin, et pourtant, l'UC va devoir sortir de ses ambiguïtés. C'est elle qui, ces dernières années, a empêché l'ouverture des discussions. C'est elle qui a exigé des bilatérales avec l'État avant de refuser de discuter avec lui. C'est elle qui s'est systématiquement opposée aux rencontres trilatérales que l'État a essayé d'organiser depuis le troisième référendum. Désormais, l'Union calédonienne est au pied du mur. Elle va devoir choisir entre la ligne radicale de sa motion de politique générale, qui assène un calendrier d'accession inéluctable à la pleine souveraineté, et la position de son président qui affirme, lui, vouloir reprendre les discussions avec l'État et avec ses compatriotes qui veulent le maintien dans la France. Une attitude conforme à l'accord de Nouméa qui prévoit qu'à l'issue de trois référendums qui auront refusé l'indépendance, les partenaires se retrouvent pour examiner la situation ainsi créée. C'est donc au sein de l'UC que va s'exercer le rapport de force, et au sein du FLNKS aussi, puisque l'Union calédonienne va devoir réparer la fracture créée par les violences insurrectionnelles et essayer de trouver la voie de la réconciliation avec le Palika et l'UPM. Le nouveau président a déjà lancé quelques signaux, alors que le président de l'UPM regrettait récemment que lors des émeutes du 13 mai, le FLNKS ait abandonné les valeurs qui étaient les siennes. Emmanuel Tchibaou évoque l'obligation de respecter les valeurs qui sont portées par le mouvement et il rappelle que l'objectif est d'accéder pacifiquement à la souveraineté. Maintenant qu'il a été porté à la présidence, va-t-il être l'otage de son bureau et de ce qu'il reste de la CCAT ? Où va-t-il arriver à faire adhérer à une ligne plus constructive ? Ce sera tout l'enjeu des prochaines semaines, dans la perspective de la recherche d'un accord d'ici le mois de mars, pour l'organisation des provinciales fin novembre 2025. Un calendrier incompatible avec l'agenda cadenassé de la motion de politique générale de l'UC, qui prévoit, je cite, « la signature de l'accord de Kanaky au plus tard le 24 septembre 2025, fixant obligatoirement une date d'accession effective à la pleine souveraineté ». Mais on est habitué aux rodomontades des indépendantistes et à leurs tops successifs vers l'indépendance. On connaît aussi leurs rapports compliqués au temps. Et d'ailleurs, si ça peut vous rassurer, ils nous fixent une date pour l'accession à la pleine souveraineté, mais ils ne savent toujours pas quand aura lieu le prochain congrès du FLNKS.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, comme chaque lundi, est à retrouver sur notre site internet ou à réécouter cet après-midi, juste après notre flash de 16h.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Au cœur de Noël, même dans un contexte difficile, Radio Rythme Bleu a décidé de maintenir son opération du cœur de la fin d'année comme elle le fait depuis sa création, au travers de plusieurs initiatives. Et pour cela, nous faisons appel une nouvelle fois à votre générosité. Nous avons décidé de maintenir au cœur de Noël, même si de nombreux Calédoniens n'ont pas vraiment la tête à la fête au terme d'une année difficile. Mais il faut que Noël reste une fête pour le plus grand nombre. Nos partenaires que sont la Croix-Rouge, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent de Paul et la Table ronde française restent engagés à nos côtés. Et cette année, grâce à leur travail avec les institutions, notamment les mairies et la province sud, les cadeaux que vous porterez à la radio seront distribués à des familles qui ont subi les exactions ou qui en ont souffert directement. Cette année, nous pensons particulièrement aux enfants de ces familles. Et notre opération au cœur de Noël est uniquement destinée à ces enfants jusqu'à 16 ans. Contrairement aux autres années, nous ne récolterons pas de vêtements, de produits d'hygiène ou de produits alimentaires, mais uniquement des jouets et des cadeaux pour ces enfants, pour qu'ils participent eux aussi à la joie de Noël. Alors bien sûr, comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité qui ne s'est jamais démentie. Dès aujourd'hui, vous pouvez venir déposer vos jouets et cadeaux pour les enfants à Radio Rythme Bleu, 4 rue de Sébastopol. Vous pouvez le faire de 7h30 à 19h et en profiter pour rencontrer aussi les équipes de la radio. Nous comptons vraiment sur vous, sur votre générosité qui a toujours été au rendez-vous.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La crise économique créée par les violences insurrectionnelles va-t-elle, selon vous, avoir des conséquences sur les festivités de Noël ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 11h38, une première pause de ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie avec un débrayage à Enerkel ou encore le bilan du Black Friday. À tout de suite.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Le soin qu'en grève chez Enerkal, une journée de mobilisation contre l'insécurité qui fait suite à l'agression jeudi de deux agents à Thiot. Ils ont été menacés par deux individus armés qui ont volé leur voiture de service. Des agents confrontés quotidiennement à l'incivilité, mais aussi désormais à la violence, avec des fortes tensions, comme à l'agence de Wailou. Steven Soulas est délégué soins qu'énergie chez Enerkal.
Aujourd'hui, on en a ras-le-bol parce que l'insécurité dans certaines zones, elle est bien présente. Jeudi dernier, on a subi une agression avec arme à feu suivie d'un carjacking. C'est agressé par un sabre d'abattis, c'est devenu banal et Enerkal. Mais on ne voudrait pas que des agressions avec arme à feu et des carjackings, ça se banalise. Ben là, les zones où on s'est fait agresser, on n'interviendra plus. Et dans les zones où on sent l'insécurité, ben voilà, si on n'est pas en sécurité, on n'interviendra pas. Dommage pour notre clientèle qui paye leurs factures de courant, qu'on n'a pas de soucis avec eux. Tout ça pour ceux qui jouent les cow-boys et menacent nos agents, que ce soit nous, agents d'Enerkal ou pompiers ou médecins. On est tous confrontés au même problème aujourd'hui. Stop, ça suffit. On veut faire passer un message qu'aujourd'hui, on a un ras-le-bol de se faire agresser sur le terrain comme ça.
Plusieurs piquets de grève ont été installés à Ouelgoua, Point-d'Imier, Wailou, Koné, Panda et l'agence clientèle Sud. Le mouvement ne doit durer qu'une seule journée. Un Black Friday plutôt satisfaisant pour les commerçants. Tout le week-end, ils ont proposé des remises aux clients pour cette opération annuelle. La fréquentation a été importante, même si le chiffre d'affaires global est inférieur à l'an dernier, nous a dit Ronan Delay, le président du syndicat des commerçants.
Une grosse fréquentation dans les commerces, en particulier au centre-ville, pour le premier jour du Black Friday. C'est un incontournable qui continue de très bien fonctionner en Nouvelle-Calédonie. On observe néanmoins une baisse par rapport à l'année dernière, mais le contraire aurait été étonnant du fait de départs enregistrés et de la baisse de pouvoir d'achat des Calédoniens. Pour être franc, on craignait une fréquentation moindre lors du Black Friday. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec cette édition. Au final, nous sommes agréablement surpris de la bonne affluence de la part des consommateurs qui sont venus quand même en masse pour beaucoup anticiper un petit peu leurs achats de Noël également. Ça permet aux commerçants de toute manière de générer du chiffre, de la trésorerie, ce qui était très important. Et pour les consommateurs, bien évidemment, de faire des affaires, des prix remisés essentiels dans cette période difficile pour tout le monde.
Et le Black Friday est terminé. Les commerçants du territoire préparent maintenant les fêtes de fin d'année.
Le mois de décembre est toujours le mois le plus important pour le commerce. Évidemment, cette année, c'est un petit peu particulier. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Donc, on craint un mois, évidemment, de décembre qui sera en dessous, et c'est certain, des années passées. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Maintenant, le problème également pour le commerce n'est pas que la fréquentation, finalement, c'est également les stocks. Parce qu'avec la visibilité quasi nulle que l'on a, il est difficile pour un commerçant de pouvoir passer des commandes sans savoir quelle sera la Nouvelle-Calédonie et le marché demain. On a diverses problématiques, mais on essaiera, quoi qu'il arrive, de faire le mieux possible au mois de décembre avec une belle offre produit pour les Calédoniens qui le méritent.
Ronan Delay, le président du syndicat des commerçants. Le Black Friday était la dernière occasion de profiter d'une grande opération promotionnelle pour cette année. Rendez-vous en 2025 maintenant pour les soldes dont les dates se sont fixées par le gouvernement. Des dates qui devraient être connues dans les jours qui viennent. Parlons maintenant de la 6e édition du concours des miels de Nouvelle-Calédonie. Elle s'est déroulée ce matin à Nouville et le jury a pu déguster 29 miels différents, Léo Fichou.
Et oui, des miels répartis en 4 catégories, les crémeux, les miels de Niaouli, comme depuis toujours. Mais cette année, nouveauté, les miels toutes fleurs claires et foncées sont remplacés par les miels des îles et les miels de la Grande Terre. Organisé par le centre d'apiculture, le concours s'adapte aux récoltes des cuvées, toujours très différentes d'une année sur l'autre, explique Romain Gaillet, responsable du centre d'apiculture de Nouvelle-Calédonie.
On pourrait parler de cuvée dans le sens où chaque saison va emmener une production de miel qui va être un petit peu différente. Un exemple qui est intéressant, c'est sur le miel de Lifou. Cette année, on est moins sur l'amande, on est un petit peu plus sur le cerise par exemple. On a eu une production de miel de Niaouli un petit peu inférieure aux années précédentes, du coup moins de miel présenté. On va avoir 4 échantillons contre une dizaine habituellement. Sur le goût du miel, la sécheresse, pas tant que ça sur le goût du miel. Par contre, on voit effectivement que ça change nos dynamiques de production. Et du coup, là, nous, effectivement, on sait que sur la côte ouest, la production, elle démarre à peine maintenant et elle va s'étaler plus sur la saison humide.
Et cette année, 29 miels étaient en compétition, donc dégustés par un jury d'exception, des apiculteurs, forcément, mais aussi des spécialistes des métiers de la bouche, pâtissiers, chefs de cuisine ou encore sommeliers, comme Alexandre Mourgue, qui est sommelier du restaurant Marmite et Tire-Bouchon. Il était le président du jury et nous explique comment choisir un bon miel, notamment dans la catégorie des Niaouli.
En fonction de leurs arômes, leurs goûts, leurs défauts possibles visuellement sur la texture. Après, pour choisir un bon miel de concours, il y a plusieurs critères à respecter. La viscosité, donc le côté tactile, en fait, plus il va être liquide, moins ça va être un défaut. Plus il va se tenir, ce sera un gage de qualité. Après, au niveau des goûts aussi, par exemple, il y a certains miels comme le Niaouli qui s'identifient par des goûts assez particuliers qu'on n'en retrouvera pas dans d'autres miels. Donc, c'est des miels puissants que tout le monde n'aime pas forcément. Et là, c'était des beaux miels cette année où on avait un goût assez intense, mais bien équilibré. Ce n'était pas quelque chose qui peut rebuter certaines personnes parce que c'est vrai que le Niaouli, par exemple, on sent la crevette dedans. Et c'est une odeur qui peut être un peu désagréable, mais en fait, c'est un gage de qualité.
Et rendez-vous samedi au Royal Caledonian Show pour la remise des prix et forcément aussi les résultats de ce 6e concours des miels de Nouvelle-Calédonie.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, notez que la ville de Nouméa est le prestataire de la collecte des ordures ménagères Clinéo lance aujourd'hui son service en ligne. Les Nouméens abonnés au ramassage des ordures ménagères pourront désormais effectuer toutes leurs démarches via Internet sur le site www.clinéo.nc. Et puis encore un gagnant aujourd'hui au grand jeu SMS Radio Rythme Bleu au 40-20. C'est Émilien de Népouy qui a envoyé son SMS au bon moment. C'était ce matin à 10h54 très précisément. Il a été le 1500e à envoyer son SMS. Donc, il remporte 100 000 francs de bons d'achat qu'il pourra dépenser où il veut et quand il veut pour être le prochain gagnant. Pourquoi pas ? Vous pouvez envoyer dès maintenant RRB au 4020 tous les 1500 SMS. Je vous rappelle que le gagnant remporte 100 000 francs en bons d'achat. Quant au jeu du million, il a été gagné samedi, hein, vous le savez, par un auditeur. Et bien, le prochain tirage au sort, ce sera le 30 avril. Voilà, une pause avant de voir dans un instant l'actualité en Calédonie, l'actualité, pardon, en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La Brousse s'invite à Nouméa. Radio Rythme Bleu vous donne rendez-vous samedi et dimanche pour le Royal Caledonia Show.
Ah ouais !
Venez nous voir sur le stand, suivez les directs de la foire, les interviews et venez jouer avec vos animateurs préférés à la roue de la chance.
Il va y avoir quoi ?
De nombreux cadeaux à gagner. Des bons d'achat carburant avec vos stations Shell Pacifique. Une nuit en bungalow premium pour deux personnes avec le Kunwe Village de Yengen et plein d'autres lots. Alors passez sur le stand RRB samedi et dimanche à l'hippodrome Henri Millard. RRB, toujours présent sur les grands événements.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flick Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flick Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flick Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de l'actualité dans Infobac, c'est avec l'actualité nationale et internationale. On retrouve Jean-François Baudin.
Michel Barnier vit-il ces derniers jours à Matignon? Beaucoup semblent le penser, alors que le projet de loi de finances du budget 2025 doit être voté la nuit prochaine pour nous à l'Assemblée nationale et sans doute avec le recours au 49-3. Dans ce cas, la France insoumise déposera une motion de censure que le Rassemblement national dit vouloir voter. Le groupe dirigé par Marine Le Pen estime en effet que ses propositions n'ont pas été suffisamment prises en compte dans ce projet de budget. Le gouvernement, de son côté, dit qu'il ne veut pas céder au chantage. Jacques Serret pour Europe 1.
Après avoir fait des concessions au Rassemblement national, par exemple en annonçant qu'il n'augmenterait pas les taxes sur l'électricité, l'exécutif ne veut désormais plus rien céder. Nous ne rentrons dans aucun ultimatum, rappelait ce matin le ministre de l'économie Antoine Armand dans les colonnes du JDD. Le compromis n'est pas le chantage, appuyait le ministre du budget Laurent Saint-Martin auprès du Parisien. Ce soir, le RN considère donc que le gouvernement a mis fin à la discussion. Il y a des chances qu'on tire les conséquences de ce comportement extrêmement fermé et sectaire, menace Marine Le Pen. Si elle ne veut pas perdre la face après s'être autant avancée, la patronne du RN n'a désormais plus d'autre choix que d'appuyer sur le bouton de la censure mercredi avec ses 123 députés aux côtés du nouveau Front Populaire. Même si Matignon espère encore un miracle, le gouvernement reste ouvert au dialogue, assure ce soir l'entourage de Michel Barnier.
Le gouvernement dit donc rester ouvert au dialogue, mais pour la députée Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement National, c'est lui qui est à l'origine de cette situation.
Je pense que vu le sérieux de la situation, si j'étais au gouvernement, je ne m'amuserais pas à faire du bluff, vous voyez, parce que derrière, c'est la situation des Français qui est en jeu, et là, le gouvernement tombe dans l'irrationnel. Ils essayent de faire porter le chapeau de l'irresponsabilité aux partis d'opposition, c'est-à-dire le Rassemblement National, alors que, pardon, si nous en sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est de leur faute, puisque dès cet été, Marine Le Pen avait annoncé ses lignes rouges. Le 16 octobre, nous avons présenté notre contre-budget, nous avons participé à toutes les discussions budgétaires, et là, à quelques heures seulement du vote sur le PLFSS, eh bien, ils essayent de mettre un coup de pression. Je pense que ce gouvernement ne sait pas où il va, et en tout cas, si jamais il était censuré, il aurait tout fait pour que ça arrive.
La députée Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement National, interrogée par nos confrères d'Europe 1. La France insoumise se défend de vouloir abroger le délit d'apologie du terrorisme. Le texte qu'elle a déposé précise en effet qu'elle propose de l'abroger du code pénal pour le remettre dans le droit de la presse. Une distinction importante selon le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, qui a été pour lui aussi l'occasion de charger le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur le plateau d'Europe 1.
de le dire comme ça quand même. Ça évite de désinformer les gens et de leur faire croire, comme l'ont dit un certain nombre de responsables politiques depuis, que nous voudrions autoriser l'apologie du terrorisme. C'est pas du tout ce que nous avons proposé.
C'est ce que disent
les
socialistes.
Non, mais les socialistes, ceux qui disent ça, disent n'importe quoi. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à lire.
Bruno Retailleau dit que vous faites l'apologie du Bataclan. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Précisément que c'est un menteur. Un manipulateur.
Monsieur le ministre de l'Intérieur est un menteur.
Quand il dit ça, oui, évidemment, c'est un menteur. Ou alors qu'il ne sait pas lire une proposition de loi. Et alors là, je trouve ça très inquiétant pour un ministre de l'Intérieur. Parce que s'il savait lire une proposition de loi, et notamment l'exposé des motifs de cette proposition de loi, nous disons une chose très simple. Depuis que la loi a été modifiée en 2014, effectivement, sous François Hollande, le délit d'apologie du terrorisme a été instrumentalisé pour s'en prendre à des syndicalistes, à des responsables associatifs, à des journalistes, à des responsables politiques de la France insoumise, pour des faits qui ne s'apparentent bien évidemment pas à de l'apologie du terrorisme.
Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, que vous retrouverez ce soir juste après notre édition de 17h45. En bref, un terrible accident de car dans les Pyrénées. Le véhicule qui transportait 47 personnes a heurté la falaise le long de la route. Pour une raison indéterminée, le drame s'est produit sur une route très sinueuse entre la France et Andorre. Le bilan est très lourd et fait état pour l'instant de 2 morts, mais il pourrait encore s'alourdir puisqu'il y a aussi 14 blessés, dont 7 sont dans un état d'urgence absolu. D'importants moyens de secours ont dû être déployés. Et puis Carlos Tavares n'est plus le directeur général du groupe automobile Stellantis, qui regroupe notamment Peugeot, Fiat et Chrysler. Un an avant le terme de son mandat, il paye les mauvais résultats du groupe, mais aussi des divergences de stratégie avec les administrateurs. L'actualité à l'étranger, et l'aviation russe a bombardé la deuxième ville du pays, Alep, ainsi que la ville d'Idleb, fief des rebelles dominés par les djihadistes. La Russie est l'alliée du pouvoir de Bachar el-Assad et elle a été obligée d'intervenir après l'offensive des rebelles sur Alep et prêter main-forte à une armée syrienne débordée dans un pays gangréné par la corruption, explique Régis Le Sommier, grand reporter.
Cette corruption, elle existait déjà dans le régime bassiste et en Syrie en général, mais elle s'est développée. Et aujourd'hui, vous avez un pays complètement exsangue, avec une population d'affamés, et en plus qui a perdu ses puits de pétrole, puisque ces puits de pétrole, ils sont sur la zone des Kurdes et ils sont contrôlés par les Américains. Donc si vous voulez, tout ça fait qu'il y a un degré d'épuisement général de la société syrienne. Donc évidemment, ça se répercute sur l'armée syrienne.
Régis Le Sommier, grand reporter, interrogé par nos confrères d'Europe 1, 11h53. Une pause et nous ouvrons notre Mac des Sports du lundi.